Chapitre 31. Ne vous dépouillez jamais de la protection de la prière. Marie dit : Je ne vais pas te parler longuement, parce que tu es bien lasse, ma pauvre fille. J'attire uniquement ton attention et celle des lecteurs sur l'habitude constante de Joseph et la mienne de donner toujours la première place à la prière. Sécheresse, hâte, chagrin, occupation, c'était des choses qui n'empêchaient pas la prière, mais au contraire, il la favorisait. Elle était toujours la reine de nos occupations, notre réconfort, notre lumière, notre espérance. Si aux heures de tristesse elle était le réconfort, aux heures heureuses elle devenait un chant. Mais elle était l'amie fidèle de notre âme. Elle nous détachait de la terre, de l'exil. Elle nous tournait vers les hauteurs du ciel, la patrie. Ce n'était pas seulement moi qui portais Dieu en moi et qui n'avais qu'à regarder mon sein pour adorer le Saint des saints. Mais Joseph aussi se sentait uni à Dieu quand il priait, parce que notre prière était une adoration véritable de tout l'être qui se fondait en Dieu en l'adorant et recevant ensuite son embrassement. Et regardez, moi qui portais l'Éternel, je ne me pensais pas dispensé de la fréquentation respectueuse du temple. La sainteté la plus élevée ne dispense pas de se sentir un rien devant Dieu et d'humilier ce néant puisque lui nous le permet en un continuel hosanna à sa gloire. Êtes-vous faible, pauvre, plein de défauts? Invoquez la sainteté du Seigneur, saint, saint, saint. Appelez-le ce saint béni au secours de votre misère. Il viendra faire passer en vous sa sainteté. Êtes-vous saint et riche de mérite à ses yeux? Invoquez également la sainteté du Seigneur. Cette sainteté infinie fera croître toujours plus la vôtre. Les anges qui sont des êtres supérieurs aux faiblesses de l'humanité, ne cessent pas un instant de chanter leur sanctus, et leur beauté surnaturelle s'accroît à chaque invocation de la sainteté de notre Dieu. Imitez les anges, ne vous dépouillez jamais de la protection de la prière contre laquelle s'émoussent les armes de Satan, les malices du monde, les désirs de la chair et l'orgueil de l'esprit. Ne déposez jamais ces armes qui ouvrent le ciel et en font pleuvoir grâce et bénédiction. La terre a besoin d'un bain de prière pour se purifier des fautes qui attirent les châtiments de Dieu. Et, étant donné que les âmes de prière sont peu nombreuses, elles doivent prier beaucoup pour suppléer à la carence des autres. Il leur faut multiplier leurs prières vivantes pour faire le poids nécessaire à l'obtention de la grâce. Des prières vivantes, elles le seront quand elles auront leur source dans l'amour et le sacrifice. Et que toi, ma fille, tu souffres, car c'est une chose excellente que ta souffrance unie à la mienne et à celle de mon Jésus, elle est agréable à Dieu et méritoire. Il m'est si cher ton amour de compatissant. Mais veux-tu me donner un baiser? Baise les plaies de mon fils, mets-leur le baume de ton amour. J'ai ressenti en mon esprit la douleur des fouets et des épines, la torture des clous et de la croix. Mais je ressens également toutes les caresses données à mon Jésus. Ce sont autant de baisers qui me sont donnés. Et puis viens, je suis la reine du ciel, mais je suis toujours la maman. Me voilà heureuse. Chapitre 32. Arrivée à la maison de Zacharie. Je suis dans un pays montagneux. Ce ne sont pas de hautes montagnes, mais ce ne sont plus des collines. Elles ont déjà des cimes et des gorges de vraies montagnes, comme on en voit sur notre Apennin tosco-ombrien. La végétation est drue et magnifique. Il y a en abondance des eaux fraîches qui conservent vertes les prairies et productifs les vergers peuplés de pommiers, de figuiers, avec, autour, des maisons, des vignes. Ce doit être le printemps, car les grappes sont déjà grosses, comme des grains de vesse, et les pommiers commencent à ouvrir leurs bourgeons, qui maintenant paraissent verts, sur les branches supérieures des figuiers. Il y a des fruits qui sont déjà bien formés. Ensuite, les prés ne sont que tapis moelleux aux mille couleurs. Les troupeaux sont en train d'y paître, ou bien ils se reposent, taches blanches, sur l'émeraude de l'herbe. Marie gravit avec sa monture un chemin en assez bon état qui doit être la principale voie d'accès. Elle monte parce que le pays dont l'aspect est assez régulier est situé plus haut. Celui qui me renseigne habituellement me dit « Cet endroit, c'est Hébron. Vous me parliez de Montana, mais je ne suis pas fixée. Je ne sais si Hébron désigne tout le pays ou l'agglomération. » Je n'en dis donc que ce que j'en sais. Voilà que Marie entre dans la cité. C'est le soir. Des femmes, sur les portes, observent l'arrivée de l'étrangère et en parlent entre elles. Elles la suivent de l'œil et ne se rassurent qu'en la voyant s'arrêter devant une des plus belles maisons situées au milieu du pays. Devant se trouve un jardin, puis en arrière et autour un verger bien entretenu. Vient ensuite une vaste prairie qui monte et descend suivant le relief de la montagne pour aboutir à un bois de haute futaie. Ensuite, j'ignore ce qu'il y a. La propriété est entourée d'une haie de ronces et de rosiers sauvages. Je ne distingue pas bien ce qu'ils portent. La fleur et le feuillage de ces buissons se ressemblent beaucoup et tant que le fruit n'est pas formé sur les branches, il est facile de se tromper. Sur le devant de la maison, sur le côté donc qui fait face au pays, la propriété est entourée d'un petit mur blanc sur lequel courent des branches de vraies roses, pour l'instant sans fleurs mais déjà garnies de boutons. Au centre, une grille de fer qui est fermée. On se rend compte que c'est la maison d'un notable du pays ou d'un habitant assez fortuné. Tout en effet indique, sinon la richesse, au moins l'aisance, certainement. Il y a beaucoup d'ordre. Marie descend de sa monture et s'approche de la grille. Elle regarde à travers les barreaux et ne voit personne. Alors, elle cherche à manifester sa présence. Une petite femme, qui, plus curieuse que les autres, l'a suivie, lui indique un bizarre agencement qui sert de clochette. Ce sont deux morceaux de métal fixé sur un axe. Quand on remue l'axe avec une corde, ils battent l'un contre l'autre en faisant un bruit qui imite celui d'une cloche ou d'un gong. Marie tire la corde, mais si gentiment que l'appareil tinte légèrement et personne ne l'entend. Alors la femme, une petite vieille, tout nez et menton et entre les deux une langue qui en vaudisse, s'accroche à la corde et tire, tire, tire. Un vacarme a réveillé un mort. C'est cela qu'il faut faire. Autrement, comment pouvez-vous faire entendre? Sachez qu'Élisabeth est vieille et aussi Zacharie. Et à présent, il est muet et sourd par-dessus le marché. Les domestiques sont aussi vieux. Le savez-vous? N'êtes-vous jamais venu? Connaissez-vous Zacharie? Vous êtes... Pour délivrer Marie de ce déluge de renseignements et de questions, survient un petit vieux qui boite. Ce doit être un jardinier ou un agriculteur, car il a en main un sarcloir et, attaché à la ceinture, une serpette. Il ouvre et Marie entre en remerciant la petite vieille, mais, hélas, sans lui répondre. Quelle déception pour la curieuse! À peine à l'intérieur, Marie dit « Je suis Marie de Joachim et d'Anne de Nazareth, cousine de vos maîtres. » Le petit vieux s'incline et salue et se met à crier « Sarah! Sarah !» Il rouvre la grille pour faire entrer l'âne restée dehors, parce que Marie, pour se défaire de la petite vieille importune, s'est glissée vite, vite à l'intérieur et que le jardinier, aussi rapide qu'elle, a fermé la grille au nez de la commère. Et Tout en faisant entrer la monture, il dit « Ah, grand bonheur et grande peine en cette maison! Le ciel a donné un fils à la stérile, que le Très-Haut en soit béni. Mais Zacharie est revenu, il y a 7 mois, muet de Jérusalem. Il se fait comprendre par signe ou en écrivant. Vous l'avez peut-être appris. La patronne vous a tant désiré au milieu de cette joie et de cette peine. Souvent, elle parlait de vous avec Sarah et disait « Si j'avais encore ma petite Marie avec moi, si elle avait encore été au temple, j'aurais demandé à Zacharie de l'amener. Mais maintenant, le Seigneur l'a voulu comme épouse à Joseph de Nazareth. Elle seule pouvait me donner du réconfort dans cette peine et m'aider à prier Dieu, car elle est si bonne. Et au temple, tout le monde la pleure. À la dernière fête, quand je suis allée avec Zacharie la dernière fois à Jérusalem pour remercier Dieu de m'avoir donné un fils, j'ai entendu ses maîtresses me dire « Le temple semble avoir perdu les chérubins de la gloire depuis que la voix de Marie ne résonne plus en ses murs. » Sarah, Sarah, ma femme est un peu sourde, mais viens, viens que je te conduise. » Au lieu de Sarah, voilà en haut d'un escalier, au flanc d'un côté de la maison, une femme d'âge plutôt avancé, déjà toute ridée, avec des cheveux très grisonnants. Ses cheveux devaient être très noirs, parce que très noirs sont encore ses cils et ses sourcils, et qu'elle était très brune. Le teint de son visage l'indique clairement. Contrastant étrangement avec sa vieillesse évidente, sa grossesse est déjà très apparente, malgré l'ampleur de ses vêtements. Elle regarde en faisant signe de la main. Elle a reconnu Marie. Elle lève les bras au ciel avec un « Oh !» étonné, joyeux, et se hâte autant qu'il lui est possible à la rencontre de Marie. Marie, toujours aussi réservée dans sa démarche, se met à courir, agile comme un faon, et elle arrive au pied de l'escalier en même temps qu'Élisabeth. Marie reçoit sur son cœur, avec une vive allégresse, sa cousine qui pleure de joie en la voyant. Elle reste embrassée un instant, et puis Élisabeth se détache de l'étreinte avec un « Ah !» où se mêlent la douleur et la joie, et elle porte la main sur son ventre grossi. Elle penche son visage pâlissant et rougissant alternativement. Marie et le serviteur tendent les mains pour la soutenir parce qu'elle vacille comme si elle se sentait mal. Mais Élisabeth, après être restée une minute comme recueillie en elle-même, lève un visage tellement radieux qu'il semble rajeuni. Elle regarde Marie avec vénération, en souriant comme si elle voyait un ange. Et puis elle s'incline en un profond salut en disant « Béni es-tu parmi les femmes, béni le fruit de ton sein !» Elle prononce ainsi 2 phrases bien détachées. « Comment ai-je mérité que vienne à moi ta servante, la mère de mon Seigneur ? Voilà qu'au son de ta voix, l'enfant a bondi de joie dans mon sein. » Et lorsque je t'ai embrassé, l'Esprit du Seigneur m'a dit les très hautes vérités dans les profondeurs de mon cœur. Bienheureuse es-tu d'avoir cru qu'à Dieu serait possible même ce qui ne semble pas possible à l'esprit humain. Bénie es-tu parce que, grâce à ta foi, tu feras accomplir les choses qui t'ont été prédites par le Seigneur et les prophéties des prophètes pour ce temps-ci. Béni es-tu pour le salut que tu as engendré pour la descendance de Jacob. Béni es-tu pour avoir apporté la sainteté à mon fils qui, je le sens, bondit comme une jeune chevrette pour la joie qu'il éprouve en mon sein. C'est qu'il se sent délivré du poids de la faute, appelé à être le précurseur, sanctifié avant la rédemption par le saint qui croit en toi. Marie, avec 2 larmes qui, comme des perles, descendent de ses yeux qui rit vers sa bouche qui sourit, le visage levé vers le ciel et les bras levés aussi dans la pose que plus tard tant de fois aura son Jésus, s'écrie « Mon âme magnifie son Seigneur » et elle continue le cantique comme il nous a été transmis. À la fin, au verset « Il a secouru Israël, son serviteur », etc., elle croise les mains sur sa poitrine, s'agenouille, prosternée jusqu'à terre en adorant Dieu. Le serviteur s'était respectueusement éclipsé quand il avait vu qu'Élisabeth ne se sentait plus mal et qu'elle confiait ses pensées à Marie. Il revient du verger avec un vieillard imposant, aux cheveux blancs et à la barbe blanche, qui, de loin, avec de grands gestes et des sons gutturaux, salue Marie. « Zacharie arrive !» dit Élisabeth en touchant à l'épaule la Vierge, absorbée dans sa prière. « Mon Zacharie est muet. Dieu l'a puni de n'avoir pas cru. Je t'en parlerai plus tard, mais maintenant j'espère le pardon de Dieu puisque tu es venue, toi la pleine de grâce. » Marie se lève et va à la rencontre de Zacharie et s'incline devant lui jusqu'à terre. Elle baise le bord du vêtement blanc qui le couvre jusqu'à terre. Il est très ample, ce vêtement, et attaché à la taille par un large galon brodé. Zacharie, par geste, souhaite la bienvenue et, ensemble, ils rejoignent Élisabeth. Ils entrent tous dans une vaste pièce très bien disposée. Ils y font asseoir Marie et lui font servir une tasse de lait qu'on vient de traire. Il écume encore, avec des petites galettes. Élisabeth donne des ordres à la servante, finalement apparue avec les mains enfarinées et des cheveux encore plus blancs qu'ils ne le sont en réalité, à cause de la farine dont ils sont saupoudrés. Peut-être était-elle en train de faire le pain. Elle donne aussi à un serviteur que j'entends appeler Samuel l'ordre de porter le coffre de Marie dans une chambre qu'elle lui indique. Tous les devoirs d'une maîtresse de maison à l'égard de son hôte. Marie répond entre-temps aux questions que lui fait Zacharie en écrivant avec un stylet sur une tablette enduite de cire. Je comprends par les réponses qu'il lui parle de Joseph et qu'il lui demande comment elle se trouve épousée. Mais je comprends aussi que Zacharie n'a eu aucune lumière surnaturelle sur l'état de Marie et sa condition de mère du Messie. C'est Élisabeth qui, approchant de son mari et lui mettant affectueusement une main sur l'épaule comme pour une chaste caresse, lui dit « Marie est mère, elle aussi, réjouis-toi de son bonheur. » Mais elle n'ajoute rien. Elle regarde Marie et Marie la regarde mais ne l'invite pas à en dire plus et elle se tait. Douce, très douce vision. Elle m'enlève l'horreur que j'avais ressentie à la vue du suicide de Judas. Hier soir, avant de m'endormir, j'ai vu les pleurs de Marie penchée sur la pierre de l'onction, sur le corps inanimé du Rédempteur. Elle était à sa droite, tournant le dos à l'entrée de la grotte sépulcrale. La lumière des torches éclairait son visage et me faisait voir son pauvre visage dévasté par la douleur, inondé de larmes. Elle prenait la main de Jésus, la caressait, la réchauffait sur ses joues, la baisait, en étendait les doigts, un par un, les baisait ses doigts, désormais inertes. Puis elle lui caressait le visage, se penchait pour baiser la bouche ouverte, les yeux à demi fermés, le front blessé. La lumière rougeâtre des torches fait paraître encore plus vives les plaies de tout ce corps torturé et plus visible la cruauté de la torture qu'il a subie et la réalité de sa mort. Je suis ainsi restée en contemplation tant que mon intelligence est restée lucide. Puis, réveillée de ma somnolence, j'ai prié et me suis mise en position pour un vrai sommeil. C'est alors qu'a commencé la vision ci-dessus. Mais la maman m'a dit « Ne remue pas, regarde seulement, tu écriras demain. Pendant le sommeil, j'ai de nouveau tout revu en songe. Réveillé à 6h30, j'ai revu tout ce que j'avais vu la veille et en rêve. J'ai écrit tout en voyant. Puis vous êtes venu et j'ai pu demander si je devais mettre tout ce qui suit. Ce sont de petits tableaux séparés sur le séjour de Marie dans la maison de Zacharie. 2 avril 1944. Chapitre 33. Marie révèle le nom à Élisabeth. Je vois, il me semble que c'est le matin, Marie qui court dans le vestibule. Élisabeth va et vient, s'occupant de la maison. Quand elle entre, elle ne manque jamais d'aller faire une caresse sur la tête blonde de Marie, encore plus blonde sur les murs, plutôt sombres, et sous un beau rayon de soleil qui entre par la porte ouverte sur le jardin. Élisabeth se penche pour regarder le travail de Marie. C'est la broderie qu'elle avait à Nazareth et elle en loue la beauté. « J'ai encore du lin à filer, » dit Marie. « Pour ton enfant ?»« Non, je l'avais déjà quand je ne pensais pas. » Marie n'achève pas, mais je comprends, quand je ne pensais pas devoir être la mère de Dieu. « Mais maintenant, tu devras t'en servir pour lui. Est-il beau, fin ? Les enfants, tu sais, ont besoin de linge très délicat. » « Je le sais. Moi, j'avais commencé, tard, parce que j'ai voulu être sûre que ce n'était pas une tromperie du malin. Malgré, j'avais ressenti une telle joie que cela ne pouvait venir de Satan. Puis, j'ai souffert tellement. Je suis vieille, Marie, pour être dans cet état. J'ai beaucoup souffert. Toi, tu ne souffres pas ? Moi, non, je ne me suis jamais sentie si bien. Eh oui, toi, en toi, il n'y a pas de tâche. Si Dieu t'a choisi pour être sa mère, alors tu n'es pas sujette aux souffrances d'Ève. Celui que tu portes est saint. Il me semble avoir des ailes au cœur et non un poids. Il me semble avoir en moi toutes les fleurs et tous les oiseaux qui chantent au printemps, la douceur du miel et tout le soleil. « Oh, je suis heureuse !»« Bénie, moi aussi, dès l'instant où je t'ai vue, je n'ai plus senti de poids, de fatigue et de douleur. Il me semble être neuve, jeune, délivrée des misères de ma chair de femme. Mon enfant, après avoir bondi de joie au son de ta voix, s'est installé tranquille dans sa joie. Il me semble la voir en moi, comme en un berceau vivant, et le voir dormir, rassasié et heureux, respirer comme un oiseau qui repose tranquille sous l'aile de sa maman. Maintenant, je vais me mettre au travail. Il ne me pèsera plus. Je ne vois pas bien clair, mais... Laisse, Élisabeth, j'y penserai, moi, à filer et à tisser pour toi et pour ton enfant. Je suis svelte et j'y vois clair. « Mais tu devras penser au tien. »« Oh, j'aurai bien le temps. Je pense d'abord à toi et à ton petit. Et puis, je penserai à mon Jésus. » Dire comme elle est douce, l'expression et la voix de Marie, et comme elle s'épanouit en le disant, ce nom, comme ses yeux s'emperlent de douces larmes de joie pendant qu'elle regarde le ciel lumineux et azuré, cela dépasse les possibilités humaines. Il semble que l'extase s'empare d'elle rien qu'à dire « Jésus ». Élisabeth dit « Quel beau nom, le nom du Fils de Dieu, notre Sauveur !» Oh, Élisabeth, Marie devient triste, triste, et elle saisit les mains que sa parente tient croisées sur son sein gonflé. « Dis-moi, toi, qui à mon arrivée a été rempli de l'Esprit du Seigneur et qui a prophétisé ce que le monde ignore, dis-moi, que devra faire pour sauver le monde, ma créature ? Les prophètes, oh, les prophètes qui parlent du Sauveur, Isaïe, tu te rappelles, Isaïe ? C'est l'homme des douleurs, C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Il a été percé et blessé à cause de nos crimes. Le Seigneur veut le consumer dans les souffrances. Après la condamnation, on l'a élevé. De quelle élévation parle-t-il? On l'appelle agneau, et moi je pense à l'agneau pascal, à l'agneau de Moïse, et je le rapproche du serpent que Moïse éleva sur une croix. Élisabeth, Élisabeth, que feront-ils à ma créature? Que devra-t-il souffrir pour sauver le monde? Marie pleure. Élisabeth la console. Marie, ne pleure pas, c'est ton fils, mais c'est aussi le fils de Dieu. Dieu pensera à son fils et à toi qui es sa mère. Et s'il y en a tant qui se montreront cruels envers lui, il y en aura tant qui l'aimeront. Tant. Pendant des siècles et des siècles, le monde regardera vers ton enfant et te bénira avec lui. Toi, source d'où jaillit la rédemption. Le sort de ton fils est levé à la royauté sur toute la création. Pense-y, Marie, roi, parce qu'il aura racheté tout ce qui a été créé, et comme tel, il en sera le roi universel. Et aussi sur la terre, au cours des temps, il sera aimé. Mon fils précédera le tien et l'aimera. L'ange l'a dit à Zacharie, et lui me l'a écrit. Ah, quelle douleur que de le voir muet, mon Zacharie! Mais j'espère que, quand l'enfant sera né, le père aussi sera libéré du châtiment qu'il a frappé. Prie, toi qui es le siège de la puissance de Dieu et la cause de la joie du monde. Pour l'obtenir, j'offre comme je puis ma créature au Seigneur. Elle est à lui, en effet. Il l'a prêtée à sa servante pour lui donner la joie de s'entendre appeler mère. C'est le témoignage de ce que Dieu a fait pour moi. Je veux qu'on l'appelle Jean. Est-ce que par hasard, ce n'est pas une grâce, mon petit? Et n'est-ce pas Dieu qui me l'a faite? Et Dieu, j'en suis bien convaincue, te fera cette grâce. Je prierai avec toi. J'ai tant de peine de le voir muet. Élisabeth pleure. Quand il écrit, puisqu'il ne peut plus parler, il me semble qu'il y ait des monts et des mers entre moi et mon Zacharie. Après tant d'années de douces paroles, maintenant sa bouche reste silencieuse. Et maintenant, spécialement, où il serait si beau de parler de ce qui va arriver. Je me retiens même de parler pour ne pas le voir se fatiguer à faire des gestes pour me répondre. J'ai tant pleuré, je t'ai tant attendu, le pays regarde, bavarde et critique, le monde est fait ainsi. Et quand on a une peine ou une joie, on a besoin de compréhension et pas de critique. Maintenant, il me semble que la vie soit tout à fait meilleure. Je sens la joie en moi depuis que tu es avec moi. Je sens que mon épreuve va passer et que je serai bientôt tout à fait heureuse. Il en sera ainsi, n'est-ce pas? Je me résigne à tout. Mais si Dieu pardonnait à mon époux, pouvoir l'entendre prier comme avant. Marie la caresse, la réconforte et pour la distraire, l'invite à faire un tour dans le jardin ensoleillé. Elles se rendent sous une tonnelle bien entretenue jusqu'à une petite tour rustique dans les trous de laquelle les colombes font leur nid. Marie répand des graines en riant. Les colombes se précipitent sur elle avec des roucoulements en des vols qui décrivent tout autour des cercles iridescents. Sur la tête, sur les épaules, sur les bras et sur les mains, elles se posent, allongent leur bec rose pour saisir les graines dans le creux des mains, becquetant gracieusement les lèvres roses de la Vierge et ses dents qui brillent au soleil. Marie tire d'un sac les graines blondes et rit au milieu de cette joute d'avidité envahissante. Comme elle t'aime, dit Élisabeth. Il n'y a que quelques jours que tu es avec nous, et elle t'aime plus que moi, qui les ai toujours soignés. La promenade se poursuit jusqu'à un enclos fermé, au fond du verger, où se trouvent une vingtaine de chèvres avec leurs chevreaux. Tu es revenu du pâturage? Dit Marie à un jeune berger qu'elle caresse. Oui, car mon père m'a dit, va à la maison, parce que bientôt il va pleuvoir et il y a des bêtes qui vont avoir les petits. Aie soin qu'elles aient de l'herbe sèche et une litière toute prête. Le voilà qui vient. Et il fait signe au-delà du bois, d'où vient un bêlement tremblotant. Marie caresse un chevreau blond, comme un enfant, qui la frôle et, avec Élisabeth, boit du lait tout frais tiré que le petit berger lui offre. Le troupeau arrive avec un berger hirsute comme un ours, mais ce doit être un brave homme, car il porte sur ses épaules une brebis toute plaintive. Il la pose doucement par terre et il explique. Elle va avoir un agneau et elle ne pouvait plus marcher que difficilement. Je l'ai chargée sur mes épaules et j'ai fait très vite pour arriver à temps. La brebis, qui boite douloureusement, est conduite au bercail par l'enfant. Marie s'est assise sur un rocher et joue avec les chevreaux et les agneaux, présentant des fleurs de trèfle à leur museau rose. Un chevreau blanc et noir lui met les pattes sur les épaules et flaire ses cheveux. « Ce n'est pas du pain, dit Marie en riant. Demain, je t'en apporterai une croûte. Sois tranquille maintenant. » Élisabeth aussi, rassérénée, se met à rire. Chapitre 34. Marie parle de son enfant. Je vois Marie qui file, vite, vite, sous la tonnelle où le raisin grossit. Il a dû passer un certain temps parce que les pommes commencent à rougir sur les arbres et les abeilles ronronnent près des fleurs du figuier déjà mûres. Élisabeth est tout à fait grosse et marche lourdement. Marie la regarde avec une attention affectueuse. Marie elle-même, quand elle se lève pour ramasser le fuseau tombé trop loin, paraît s'arrondir sur les côtés et l'expression du visage est changée. Elle est plus mûre. C'était une jeune fille. Maintenant, c'est une femme. Les femmes entrent dans la maison parce que le jour baisse et à l'intérieur on allume les lampes. En attendant le souper, Marie tisse. « Mais ne te fatigue-t-il pas réellement ?» demande Élisabeth en montrant du doigt le métier à tisser. « Non, sois tranquille. Pour moi cette chaleur me fatigue. J'ai été sans souffrir, mais maintenant le poids est lourd pour mes reins vieillis. Prends courage, tu seras bientôt libérée. Comme tu seras heureuse alors. Pour moi, je ne vois pas l'heure de ma maternité. Mon enfant, mon Jésus, comment sera-t-il? Beau comme toi, Marie. Oh non, plus beau, lui est Dieu. Je suis sa servante. Mais j'ai voulu dire, sera-t-il blond ou brun? Aura-t-il les yeux comme un ciel tranquille ou comme les serres de montagne? Moi, je me le représente plus beau qu'un chérubin, avec une chevelure couleur d'or, avec les yeux de la couleur de notre mère de Galilée, quand les étoiles commencent à se lever sur l'horizon du ciel. Une bouche petite et rouge, comme une tranche de grenade quand elle s'ouvre à maturité. Et les joues, eh bien voilà, comme le teint rosé de cette rose pâle. Et deux petites mains qui tiendraient dans le calice d'un lys, tant elles sont petites et belles, et deux pieds, petits, au point de remplir le creux de la main, et gracieux et veloutés, plus qu'un pétale de fleurs. Vois, j'emprunte l'idée que je me fais de lui à toutes les beautés que me suggère la terre. Et j'entends sa voix. En pleurant, il pleurera un peu, de faim ou de lassitude, mon petit, et ce sera toujours grande douleur pour sa maman, qui ne pourra. Oh non, elle ne pourra le voir pleurer sans avoir le cœur transpercé. Son cri sera comme le bêlement qui nous arrive de ce petit agneau qui vient de naître et qui cherche la mamelle de sa mère et pour dormir la chaleur de sa toison. Son rire emplira de ciel mon cœur épris de ma créature. Je puis être énamourée de lui parce qu'il est mon Dieu et mon amour d'amante ne s'oppose pas à ma consécration virginale. Son rire sera comme le roucoulement joyeux d'une petite colombe rassasiée et satisfaite dans la tiédeur de son nid. Je pense à ses premiers pas, un oiseau sautillant sur un pré fleuri. Le pré sera le cœur de sa maman qui soutiendra ses petits pieds roses avec tout son amour pour qu'il ne rencontre rien qui le fasse souffrir. Comme je l'aimerai, mon enfant, mon fils. Joseph aussi l'aimera. Mais tu devras le lui dire à Joseph. Marie s'assombrit et soupire. Je devrais pourtant le lui dire. J'aurais voulu que le ciel le lui fasse savoir, car c'est très difficile d'en parler. Veux-tu que je lui en parle? Que je le fasse venir pour la circoncision de Jean? Non, j'ai remis à Dieu le soin de l'instruire de son heureux sort de nourricier du Fils de Dieu. Il s'en chargera. L'Esprit m'a dit ce soir, « Tais-toi, laisse-moi le soin, je te justifierai. » Et il le fera. Dieu ne ment jamais. C'est une grande épreuve, mais avec l'aide de l'Éternel, elle sera surmontée. En dehors de toi, à qui l'Esprit l'a révélée, personne ne doit connaître par ma bouche la bienveillance du Seigneur à l'égard de sa servante. J'ai toujours gardé le silence, moi aussi, avec Zacharie, qui en aurait éprouvé une grande joie. Il croit à ta maternité naturelle. Je le sais, et je l'ai voulu aussi par prudence. Les secrets de Dieu sont saints. L'ange du Seigneur n'avait pas révélé à Zacharie ma maternité divine. Il aurait pu le faire si Dieu l'avait voulu, car Dieu savait qu'était imminente l'époque de l'incarnation de son Verbe en moi. Mais Dieu a tenu cachée cette joie lumineuse à Zacharie qui refusait comme impossible votre fécondité tardive. Je me suis conformée à la volonté de Dieu et, tu le vois, tu as su ce secret vivant en moi. Lui n'a rien remarqué. Tant que ne tombera pas le voile de son incrédulité à l'égard de la puissance de Dieu, il vivra à l'écart de la lumière surnaturelle. Élisabeth soupire et garde le silence. Zacharie entre. Il présente des rouleaux à Marie. C'est l'heure de la prière avant le souper. C'est Marie qui prie à haute voix à la place de Zacharie. Puis, ils prennent place à table. « Quand tu ne seras plus ici, comme nous pleurerons de n'avoir personne qui nous dise les prières, » dit Élisabeth en regardant son mari muet. « Tu prieras alors, Zacharie, » dit Marie. Il secoue la tête et écrit « Je ne pourrai plus jamais prier pour les autres. J'en suis devenu indigne du moment où j'ai douté de Dieu. » « Zacharie, tu prieras. Dieu pardonne. » Le vieillard essuie une larme et soupire. Après le repas, Marie retourne au métier à tisser. « C'est assez, » dit Élisabeth, « tu te fatigues trop. » « Le temps est très proche, Élisabeth. Je veux faire à ton enfant un trousseau digne de celui qui précède le roi de la race de David. » Zacharie écrit. « De qui naîtra-t-il et où ?» Marie répond. « Là où les prophètes l'ont dit et de qui l'Éternel fera choix. Tout est bien fait de ce que fait notre Seigneur le Très-Haut. » Zacharie écrit. « À Bethléem, donc, en Judée, nous irons le vénérer, femme. Toi aussi tu viendras à Bethléem avec Joseph. » Et Marie, baissant la tête sur son métier, « Je viendrai. » C'est la fin de la vision. Chapitre 35. Le don de Dieu doit toujours nous rendre meilleurs. Marie dit « La première manifestation de l'amour du prochain s'exerce envers le prochain. Que cela ne te semble pas un jeu de mots. La charité a un double objet, Dieu et le prochain. Dans la charité à l'égard du prochain est comprise celle qui s'exerce envers nous-mêmes. Mais si nous nous aimons plus que les autres, nous ne sommes plus charitables, nous sommes égoïstes. Et même dans les choses permises, il faut être assez sain pour faire passer en premier lieu les besoins du prochain. Soyez tranquilles, mes enfants. Dieu, pour les âmes généreuses, supplée avec les moyens de sa toute-puissante bonté. Cette certitude m'a fait venir à Hébron pour aider ma parente dans la situation où elle se trouvait. Et à mon dessein de secours humain, en donnant au-delà de toute mesure, comme c'est son habitude, Dieu a ajouté le don d'un secours surnaturel auquel je ne pensais pas. Je vais pour porter un secours matériel, et Dieu sanctifie la droiture de ma démarche, opérant la sanctification du fruit du sein d'Élisabeth, et, avec cette sanctification qui présanctifia le Baptiste, soulage la souffrance physique d'une fille d'Ève, âgée et concevant à un âge inhabituel. Élisabeth, femme de foi intrépide et abandonnée avec confiance à la volonté de Dieu, mérita de comprendre le mystère renfermé en moi. L'Esprit lui parla par le bondissement de l'enfant en son sein. Le Baptiste a prononcé son premier discours d'annonciateur du Verbe à travers les voiles des veines et de la chair qui à la fois le séparait de sa sainte mère et en même temps l'unissait à elle. Et je ne refuse pas de dire, à elle qui en est digne et à qui la lumière se révèle, ma qualité de mère du Seigneur. Le refus de ma part aurait eu pour effet de refuser à Dieu la louange qui lui était due, la louange que je portais en moi, et que ne pouvant dire à personne, je confiais aux plantes, aux fleurs, aux étoiles, au soleil, aux chants mélodieux des oiseaux, aux brebis patientes et à la lumière d'or qui me donnait un baiser en descendant du ciel et au murmure des ruisseaux. Mais prier à deux est plus doux que de dire seul notre prière. J'aurais voulu que le monde entier connaisse ma destinée, pas pour moi, mais pour qu'il s'unisse à moi pour la louange de mon Seigneur. La prudence m'a défendu de révéler à Zacharie la vérité. Ça aurait été outrepasser l'œuvre de Dieu. Si j'étais pour lui épouse et mère, je serais toujours sa servante, et je ne devais pas, à cause de son grand amour pour moi, me permettre de me substituer à lui et de prendre une décision qui m'aurait mise au-dessus de lui. Élisabeth, en sa sainteté, se rend compte et se tait, car qui est saint est toujours soumis et humble. Un don de Dieu doit toujours nous rendre meilleurs. Plus nous recevons de lui et plus nous devons donner, car plus nous recevons et plus il est en nous et avec nous, et plus nous devons nous efforcer de nous rapprocher de sa perfection. Voilà pourquoi, en faisant passer au second plan mon travail personnel, je travaille pour Élisabeth. Je ne me laisse pas dominer par la crainte de n'avoir pas le temps. Dieu est le maître du temps. Quand on espère en lui, on profite de sa providence, même pour les choses matérielles. L'égoïsme n'avance à rien, il retarde tout. La charité ne retarde rien, elle avance les réalisations. Retenez bien toujours cela. Quelle paix dans la maison d'Élisabeth! Si je n'avais pas eu la pensée de Joseph et celle de mon enfant qui devait racheter le monde, j'aurais été heureuse. Mais déjà la croix projetait son ombre sur ma vie et comme une sonnerie funèbre, j'entendais la voix des prophètes. Je m'appelais Marie. L'amertume se mélangeait toujours aux douceurs que Dieu versait en mon cœur. Et elle a toujours été en augmentant jusqu'à la mort de mon fils. Mais quand Dieu nous appelle, Marie, à la destinée de victime pour son honneur, Oh, il est doux d'être moulu comme le grain sous la meule, pour faire de notre douleur le pain qui fortifie les faibles et les rend capables de gagner le ciel. Maintenant c'est assez. Tu es fatiguée et heureuse. Repose avec ma bénédiction.